Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année 2026 est partie sur les chapeaux de roue. Et nous sommes peut-être étonnés, encore sous le choc de l'opération militaire contre le président vénézuélien, mais cette opération n'est que la suite logique des grands retournements de situation qui ont prévalu en 2025.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.
Certains n'hésitent pas à déclarer que Trump, Poutine et Xi Jinping ont enterré le vieil ordre mondial et que l'opération militaire contre le président vénézuélien a donné un coup de grâce au droit international. L'Europe s'accroche de toutes ses forces à ce droit international, mais voilà, lorsque un droit existe, il faut une force, une institution qui puisse défendre ce droit et réagir efficacement lorsqu'il est bafoué. Qui va pouvoir le défendre? Alors oui, il y a l'ONU et la fameuse armée des casques bleus. Mais cette armée a toujours été totalement inefficace et elle ne peut pas intervenir avec force, même si elle avait l'autorité pour le faire. Aujourd'hui, ce droit international est bafoué. C'est le retour du règne du plus fort. L'opération militaire américaine se situe en dehors du droit international, puisqu'elle viole la Charte des Nations Unies. Même en 2003, quand il avait envahi l'Irak, George Bush avait cherché le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, Trump s'en est passé, comme il s'est aussi passé de l'autorisation du Congrès américain. Le président américain veut refaire de l'Amérique latine l'arrière-cour des États-Unis. Vladimir Poutine veut reprendre, y compris par la force comme en Ukraine, le contrôle de l'ancienne sphère d'influence soviétique. Xi Jinping veut forcer la réunification avec Taïwan. On assiste depuis quelque temps à ce que certains, comme par exemple la journaliste Isabelle Lasserre, spécialisée dans les questions de stratégie et de diplomatie, le retour des empires. C'est-à-dire un non-respect du droit international qui donne la priorité désormais à la force. Plusieurs exemples sont sous nos yeux. Le revirement politique et stratégique des États-Unis, consistant à abandonner la vieille Europe à son triste sort, pour concentrer ses efforts sur la prise en main de l'ensemble du continent américain, du Groenland jusqu'à Panama. Le Venezuela pourra donc être sans doute la première marche de cette prise en main du continent américain. C'est toute l'Amérique que Trump veut coloniser en quelque sorte. Vladimir Poutine n'est pas en reste, car il est, semble-t-il, évident qu'il veut reprendre, y compris par la force, comme il le fait en Ukraine, le contrôle de l'ancienne sphère d'influence soviétique. Quant aux Chinois, ils veulent aussi forcer la réunification avec Taïwan, après avoir foulé aux pieds les accords concernant Hong Kong. Mais les Chinois, sans doute, parie davantage sur une victoire dans la guerre économique plutôt qu'une victoire à coups de missiles et de blindés. Et l'Europe dans tout ça? Eh bien, elle s'accroche au droit international sans voir que le monde de l'après-guerre froide a été définitivement enterré, que la force a repris le pouvoir dans le monde entier et que la loi ne peut être défendue que si elle est soutenue par un rapport de force crédible. Les grands bouleversements de l'histoire de l'humanité ne sont pas tout de suite apparents, mais ils se manifestent ci et là par des événements particuliers qui sont comme des signaux révélateurs. Dans ce contexte, Nicolas Bavraise, haut fonctionnaire, docteur en histoire, a publié une chronique dans le journal Le Figaro du 4 janvier dernier, intitulé « 2026, l'an 1 du nouvel âge des empires ». Il nous dit que, selon lui, en 2026, nous venons d'entrer dans cette nouvelle ère, dominée par des prédateurs, où les rapports de puissance se substituent à l'ordre mondial et où la force prime sur le droit. L'avènement d'un nouvel âge des empires qui s'accompagne de l'effondrement de l'ordre mondial de 1945 au profit de la constitution de zones d'influence et d'un recul de la démocratie sans précédent depuis les années 30. La seconde rupture fondamentale qu'il met à jour, c'est la libération de la violence. Le temps des empires, dit-il, s'accompagne logiquement de la multiplication des conflits armés qui n'ont jamais été aussi nombreux depuis 1945, favorisés par le ralliement des États-Unis au culte de la force. L'Europe, conclut-il, pour avoir succombé aux illusions de la fin de l'histoire après l'effondrement de l'Union soviétique, est le continent le plus vulnérable. Pour illustrer le sujet de réflexion de notre semaine, à savoir le retour des empires, je voudrais vous partager un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « La tragédie migratoire et la chute des empires », paru chez Odile Jacob et écrit par Chantal Delsol. Cette philosophe établit une comparaison entre la situation actuelle de l'Europe et l'effondrement de l'Empire romain. Certes, cette comparaison n'est pas nouvelle, mais son approche est originale car elle va faire redécouvrir les leçons de saint Augustin face à cet effondrement de l'Empire romain. Car de fait, à l'époque de saint Augustin, au tournant du 4e et du 5e siècle, Rome, qui a eu l'habitude d'envahir le monde, est elle-même investie par des armées barbares qui envahissent les territoires de l'Empire. Augustin mourra dans une ville assiégée par les Vandales. La définition même d'un empire, rappelle Chantal Delsol, c'est qu'il est sans limite, ni dans l'espace ni dans le temps. Il veut le monde dans toutes ses dimensions et pense sa capture légitime en raison de sa force, mais aussi de la pureté, enfin disons, de l'universalité de ses principes. Et elle distingue deux étapes importantes dans l'histoire de l'Empire. D'abord, l'Empire est conquérant. Il s'impose par les armes au plus loin qu'il peut. Mais le plus intéressant, c'est la seconde étape. L'Empire conquérant passe à l'Empire refuge. Car les populations des territoires auparavant conquis se bousculent pour aller s'installer dans les centres de l'Empire. Les populations des pays colonisés par l'Occident ont eu envie de s'établir à Londres ou à Paris pour le confort, la liberté, les écoles, les hôpitaux. L'Empire fait envie. C'est ainsi qu'il devient refuge. Et il est ainsi, pour ainsi dire, victime de son succès. Il attire. Quand l'Empire conquête est devenu un empire refuge, c'est le signe de la fin. L'Empire est mangé par ce qu'il a mangé. Les arrivants profitent du confort et de la richesse de la culture d'accueil, en même temps parce qu'ils sont nombreux et parce qu'ils ne peuvent pas abandonner leur propre culture, ce qui est bien naturel, ils déconstruisent la culture d'accueil qu'ils ne savent pas entretenir. Tôt ou tard, l'Empire refuge est condamné à disparaître. Lorsque saint Augustin rédige son ouvrage « La cité de Dieu », c'est pour bien montrer la distinction des deux cités, autrement dit des deux mondes, la cité temporelle et la cité éternelle. Augustin réaffirme que les humains sont libres et responsables, et comme tels, ils se donnent un destin. Ils sont les auteurs de leurs actes, ils en sont redevables. Et regardant en face l'histoire de l'Empire romain, il affirme que les chrétiens, qui défendent l'autonomie des personnes et des communautés, ne peuvent pas, de ce fait, légitimer la colonisation. Ils ont donc à réagir par rapport à un empire qui se veut toujours dominateur et conquérant. Il faut évoquer aussi, dans cette perspective, la perte du sens de l'existence et une incapacité à en retrouver un autre. Cela donne forcément lieu à un désespoir, et le tragique de la vie se tourne alors vers des visions de la fin. La multiplicité des catastrophes attendues depuis la Seconde Guerre mondiale, un conflit nucléaire, un monde où les humains sont trop nombreux, le réchauffement climatique, montre bien que la catastrophe est dans les têtes et elle craint la fin du monde. Du temps d'Augustin, les chrétiens attendaient bien sûr l'Apocalypse, mais ils l'attendaient non pas comme la destruction du monde, mais comme une révélation qui allait ouvrir l'humanité sur un autre monde. Et c'est là que les chrétiens doivent être, encore aujourd'hui, porteurs d'espoir, porteurs de la bonne nouvelle, que l'humanité est sauvée, qu'elle ne périra pas, que ce monde passera, certes, mais qu'il débouchera sur le royaume. C'est la raison pour laquelle Augustin, même devant les grands malheurs de son temps, aime le monde humain, avec ses tares, avec ses violences. Et comme un enfant peut aimer son père alcoolique qui fait et dit n'importe quoi, nous pouvons continuer à aimer le monde, à aimer l'humanité, quoi qu'elle fasse. Le chrétien, même dans les pires situations, ne peut pas être sceptique et encore moins désespéré.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.